extrait de l'album Love Introspection des Barn Guys qu'on retrouvera sur la scène du théâtre de Saint-Lô le 8 février prochain. Restez à l'écoute de l'émission. À la fin de cette deuxième heure, je vous poserai une petite question. Il faudra répondre au 02 31 94 66 66 pour gagner une place pour aller voir Fred Chapelier, Nina Attal et les Barn Guys le 8 février à Saint-Lô. En attendant, voici Nina Attal et on la retrouve juste après en direct au téléphone. Voici un titre extrait de son album Jump. Ça s'appelle I've Been a Fool. Nina Attal featuring Benjamin Sixou. Je suis au téléphone avec Nina Attal. Bonjour Nina, comment ça va ?
Bonjour Marc, ça va bien et toi?
Oh, super, on est en direct sur le 666, c'est Sweet Home Chicago. Et je suis très heureux de te parler parce que ça fait, j'ai regardé les archives, ça fait depuis octobre ou novembre 2013 que tu n'étais pas intervenu. Oui, comme tu dis,
Le temps passe vite.
Le temps passe très vite. Nina, il s'est passé plein de choses depuis, bien sûr. La dernière fois, donc c'était en 2013. C'était, rappelle-toi, à l'occasion d'une émission spéciale à Mantes-la-Jolie qu'on avait faite en direct du Magic Mirror pendant le festival Blues sur scène. Il y avait plein d'invités.
Exact, je m'en rappelle.
Ouais, dont toi, bien sûr. Et alors, on va dire, il s'est passé plein de choses depuis, et bien évidemment. Mais pour les auditeurs qui ne te connaissent pas bien, on va peut-être revenir l'espace de quelques minutes sur tes débuts, parce que on le soulignait tout à l'heure en parlant de toi en premier. Ça fait déjà plus de 10 ans que tu es sur scène, Nina.
Oui, bah écoute, j'ai fêté là en novembre dernier, tu vois, les 10 ans du projet Nina Attal. Et en fait, ça a commencé d'ailleurs là où on s'est connus, si je me rappelle bien, au tremplin Blues sur scène.
Exactement.
En 2009. Donc,
2009.
Tu vois, ça fait un petit moment déjà qu'on se connaît, Marc.
C'est ça, ouais.
Et donc, c'est là que tout avait commencé pour moi, au tremplin. Et voilà, et à cette époque, j'étais une toute jeune fille qui commençait dans la musique, donc ça m'avait permis de prendre confiance en moi et puis de me dire allez, je vais faire ma propre musique, et tout ça, ça m'a ouvert les portes de plein de beaux festivals. Donc depuis 10 ans, sur la route, et donc depuis 2013. J'ai sorti 2 autres albums.
Oui.
Donc après le tremplin, donc en tout j'ai fait 2 EP et 2 et 3 albums.
Mmh.
Et donc voilà, un que j'avais enregistré en 2014 à New York, et puis un qui est sorti en 2018 qui s'appelle Jump, et donc voilà qu'on continue à défendre sur scène.
Il y avait également, tu l'as pas cité, mais il en fait partie bien sûr, un EP qui s'appelait Urgency. Ce disque-là qui contenait simplement 5 titres. Moi, de temps en temps, je continue à l'écouter parce que même si tu as fait de très très belles choses depuis, je trouve que tout était déjà là en fait. 2010.
C'est gentil.
En plus, il y avait du beau linge derrière. Il y avait vraiment des très beaux musiciens.
C'était la première galette qu'on a sortie après le tremplin, et du coup c'est vrai que c'était on avait envie de mêler tout ce qu'on aimait, et c'était du coup un truc très frais, on va dire, on était hyper excités de faire ça, et donc
tu continues à écouter cet album, Nina?
Pas celui-ci, j'avoue que un peu du mal avec la maturité de ma voix qui n'était pas forcément encore là.
On va écouter quand même quelques secondes, ça passe en direct, tu sais, l'émission. Donc voilà, il y a de la basse, il y a de la batterie, il y a du clavier. C'est Damien Cornelis déjà au clavier. La voix a changé, mais alors au niveau de l'orchestration, etc., tout ça, c'était déjà très propre, très carré. Enfin, c'est un peu ta marque de fabrique, hein, de faire des choses qui sont travaillées. Tu laisses pas partir un morceau sans qu'il ait été répété, c'est ça?
J'aime bien. Moi, j'avoue que j'aime, même dans ce que j'écoute, j'adore les trucs hyper roots, évidemment, le blues, des débuts, les trucs hyper authentiques et tout ça, et en même temps j'aime aussi beaucoup les choses assez produites, et du coup c'est vrai que jusqu'à présent j'aimais bien faire ça moi pour ma propre musique. J'aime bien que les choses soient assez carrées parce que j'ai envie de travailler aussi des émotions que j'ai envie de donner aux gens, et du coup c'est une manière de développer ça, et jusqu'à présent c'est vrai que même les lives ils sont très bossés, beaucoup d'arrangements, de mise en place, de break, trucs comme ça, et bon, c'est vrai que j'aime bien ça aussi.
Alors au niveau de la mise en place scénique, j'ai envie de dire, il y a pas que la musique, il y a également le côté visuel, il y a les tenues de scène, il y a la danse, enfin tout ça, c'est, tu l'as dit, très très travaillé. Ça se fait en amont avec toi, ou est-ce que tu penses que chacun peut donner ses idées, comment ça se passe?
Non, chacun peut donner ses idées, évidemment, parce que on choisit aussi une équipe parce qu'on aime leur singularité. Et du coup, c'est intéressant d'avoir des choses extérieures qui viennent. Généralement, je bosse en amont, quelques mois avant les répétitions et tout ça. Je bosse quand même. Je sais dans ma tête ce que j'ai envie de faire, donc ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Donc j'essaie de préparer tout bien avant les répétitions, et après on répète, il y a toujours des choses surprenantes dont on n'avait pas pensé ou qui arrivent. Donc tout ça, ça s'intègre au show petit à petit, et puis à force de les jouer aussi sur scène, la manière dont les gens réagissent, parce que bon, à la base on fait quand même des concerts pour les gens, hein, pas pour que nous faire plaisir sur scène. Donc après, petit à petit, au fur et à mesure du temps, on arrange tout ça pour que les gens, que ça leur plaise au maximum, quoi.
Et comment tu sais si ça leur plaît à l'applaudimètre, à la banane qu'ils affichent devant toi?
Les gens qui crient, les réactions, ouais. Parce que des fois, voilà, on sent que on a un truc qu'on a envie de faire, mais bah les gens comprennent pas forcément où ça veut aller, donc bah on modifie, on change. Et oui, les réactions, voir si les gens dansent ou si ça marche pas vraiment. Enfin bon, il y a plein de. Et après, tous les publics sont différents aussi, donc il y a pas de règles. Mais bon, généralement, on voit l'énergie. Enfin, il y a un truc impalpable, une énergie, un truc qui se crée entre nous tous. Et voilà, on essaie que ça se produise au maximum.
Alors, on te voit depuis plusieurs années sur des très très belles scènes et des beaux festivals, mais est-ce que tu continues à te produire en club, dans des petits endroits?
Ouais, je continue. Bah tiens, regarde, cette semaine à Paris, le lieu fétiche de tous les musiciens à Paris, c'est le Caveau des Oubliettes, où vraiment, moi j'ai commencé aussi, j'y allais, j'avais 14 ans, je continue d'y aller de temps en temps, et bah, cette semaine on a fait un petit concert, un tribute, voilà, des trucs comme ça. C'est bien aussi de sortir un peu de... Parce que c'est vrai que moi je suis assez concentrée sur mon projet depuis le début, j'accompagne pas trop des gens à droite à gauche, et du coup ça me fait du bien aussi de sortir un peu, voilà, de ce qu'on a l'habitude de faire, et de prendre des risques, de se mettre en danger, de travailler d'autres trucs. Donc ouais, moi j'aime bien continuer quand même à faire des trucs un peu plus roots, quoi, pas que des grosses scènes dans les festivals ou quoi. Non, c'est toujours, en plus il se passe toujours un truc très très sympa dans les petits endroits où t'es super proche des gens, donc non, c'est important de garder ça.
Nina, c'est ce que tu expliques dans ta bio, la scène, c'est ta maison, c'est ta raison d'être, et c'est la raison de faire ce métier, en fait, pour toi.
Complètement, ça a toujours été, enfin, quand j'ai commencé à faire de la musique, je savais pas trop en quoi ça allait consister, et les premiers pas que j'ai fait sur scène, bah voilà, à cet âge-là, quand j'avais 15 ans, j'ai tout de suite compris que voilà, c'était, je faisais de la musique en priorité pour la scène. Après, j'adore composer, j'adore passer du temps en studio et tout ça, mais il y a un truc qui se passe sur scène, évidemment,
qui est absolument irremplaçable,
d'adrénaline, hein.
Ben voilà.
Voilà, qui se passe sur scène, qui se passe pas aux autres moments de, enfin, le processus de création. Donc moi, j'adore ça.
Nina, la prochaine question, je la pose sous le contrôle d'Alexandre Le Sueur, qui est le chanteur claviériste des Barn Guys, qui fera ta première partie bientôt.
Yes.
Par rapport à quelques noms de gens célèbres qui t'ont accompagné à un moment donné de ta carrière, j'aurais trois noms à te proposer. Tout d'abord, Nile Rodgers.
Ouais.
Qu'est-ce que tu retires de cette rencontre?
Bah, en fait, Nile Rodgers, je l'ai rencontré parce que déjà une première fois à Montreux, au festival de Montreux, parce que j'accompagnais Marc Ferron à la guitare.
C'était le deuxième nom que j'allais te proposer.
Ah bah voilà, bah tu vois, bah ils sont liés.
Eh oui.
Ils sont liés, eh parce oui. Que du coup, donc Marc Ferron, écoute, on a eu cette collaboration qui d'ailleurs voilà était la seule, mais qui était tellement inoubliable. Donc j'ai joué avec lui au festival de Montreux, et ce soir même il y avait Nile Rodgers qui était là en invité, et en plus voilà, c'était un moment où le grand public apprenait un peu plus à le connaître, vu que c'était au moment de Get Lucky avec Pharrell Williams et tout ça, donc ça c'était encore un moment encore plus spécial. Et donc après, on a fait sa première partie dans deux festivals dans le sud, à Vence et à Sète. Et du coup, on a pris le temps de parler et de, voilà, moi, de dire à quel point j'admirais son travail et tout ça. Donc ça reste vraiment des super souvenirs.
Et puis j'imagine également un super souvenir avec un certain Nono Krief, guitariste de Trust. Voilà, c'était le troisième nom que je voulais te soumettre, Nina.
Ah oui, bah Nono, je l'adore, il est adorable. On s'est vu il n'y a pas très longtemps parce qu'on faisait une émission de radio ensemble, Loft Music. Mmh. Et je sais que il pense toujours à moi et tout ça, et pour faire des choses comme ça. Donc vraiment, je l'adore. C'est un peu mon papa de la guitare. et donc voilà, je l'ai invité sur scène une fois et j'adore Norbert déjà humainement. Et après, évidemment, c'est un très grand guitariste français. Donc forcément, on est inspiré par des gens comme ça. Mmh.
Alors, le passé, les rencontres, la construction de ta carrière. Et puis, un présent très actif, avec encore de belles dates en 2020, dont cette deuxième nuit du blues à Saint-Lô, avec les Barn Guys et Fred Chapelier. Je voulais savoir, pour les gens qui vont venir te voir le 8 février prochain, quels sont les musiciens qui vont t'accompagner? Vous allez être combien sur scène? 7, 8?
Alors, on est 7 sur scène. Il y a donc ce soir-là, il y aura Pierre Lubert à la batterie, qui est une jeune pépite, de la batterie en France, vraiment incroyable. Il y aura Christophe Jambois au clavier, et qui fait aussi les basses au clavier. Il y aura donc les trois choristes, Kissy Hassan, Andrea Durand et mon petit frère Simon Attal.
On va rappeler que Kissy Hassan était la chanteuse de Rumble to Jungle.
Exactement.
Ah oui,
exactement.
Parce que là c'est quelqu'un, Kissy.
Ouais, ouais, bah en plus voilà, c'était un peu une équipe de chez vous. Du coin, les artistes,
ouais,
les
avec
pépites de votre coin. Bah
avec le guitariste Eddie Leclerc, effectivement.
Et que j'adore aussi, complètement. Et il y aura donc, pour finir, Benjamin Delarue à la guitare.
D'accord.
Mon acolyte guitariste.
Donc deux guitares sur scène avec un show qui va durer combien de temps? C'était convenu avec l'association
Alors je sais pas encore, j'ai pas eu les informations, feuille de route et tout ça.
Il va te le dire, il est en direct live dans le studio, Patrick Dubois.
Bonjour Nina.
Voilà, dis-moi Patrick, salut.
Bonjour, salut Nina, ça va?
Ça va et toi?
On vous attend avec beaucoup d'impatience.
Mais oui, on est super.
Oui, votre set c'est 1h20.
Voilà. 1h20, vous avez la réponse. Donc c'est à peu près le show complet.
Ça a été marqué sur la fiche de.
Oui, mais on n'a pas eu encore. Mais bon, bref.
Voilà. Technique, 1h20 de show et ça sera
à peu près tout le show complet.
Ouais. Donc en toute fin de soirée, après Fred Chapelier. Tu as déjà joué sur le même plateau que Fred Chapelier, Nina?
Oui. Alors ça fait longtemps. Mais oui, on s'était déjà croisés. Alors malheureusement, désolé, je ne pourrais pas me souvenir de où. Mais oui, bien sûr. Et puis Fred, c'est pareil, je le connais, on se connaît depuis très longtemps, donc ça me fait hyper plaisir de le revoir parce que ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Donc
c'est quelque chose qui surprend un petit peu les gens quand on voit ton jeune âge et déjà la longue expérience en fait que tu as acquise au fil de tous ces concerts. Plus de 500 concerts, Nina, c'est ça?
Ouais, bah écoute, ça fait un moment qu'on dit ça, alors peut-être maintenant.
Peut-être que vous êtes passé à 6 ans.
Je m'estime hyper chanceuse d'avoir eu l'occasion de commencer aussitôt ma carrière et tout ça. Et les gens m'ont toujours soutenue et j'ai réussi à faire ça pendant 10 ans et j'ai que 28 ans, effectivement.
Et ça continue.
Et je me lève, voilà, tous les matins, je réalise la chance que j'ai, quoi. J'adore mon métier et je remercie les gens de me permettre de le faire, toujours.
Voilà, déjà une belle expérience et tout l'avenir devant toi, avec une année 2020 qui s'ouvre, avec quelques projets. Un dernier album qui remonte, je crois, à 2018, c'est ça, Jack?
Ouais, c'est ça.
Peut-être un nouvel album pour les mois à venir, je ne sais pas.
Comment t'as deviné?
Je sais pas, comme ça, une intuition.
Ouais, je suis en pleine écriture du prochain album.
D'accord.
Qui sortira dans un an. Donc début janvier-février 2021, avec la tournée qui suivra et tout ça. Donc,
voilà.
Et là, c'est en pleine préparation.
Alors sinon, on peut aller voir toutes tes infos, bien sûr, sur ton site internet. Il s'appelle tout simplement ninaattal.com. Des dates marquantes, des concerts, des festivals pour 2020 déjà qui sont calés?
Ouais, il y a déjà quelques trucs. Donc évidemment, le 8 février à Pagoupé. Et puis ensuite, il y a une date à région parisienne à Vitry, au Sub. Le 21 mars, bon, il y a plein d'autres choses. Faut aller regarder sur le site, voilà, parce que selon la région dans laquelle les gens habitent, y a tout noté sur le site.
Alors, petite dernière question, peut-être à moins que Patrick veuille intervenir à nouveau pour répondre à cette même question. Qu'est-ce qu'il va falloir dire aux gens, là en 30 secondes peut-être, pour les inciter à venir compléter la salle? Il y a pratiquement salle comble, j'ai envie de dire. Il y a 400 places dans le théâtre.
Super.
Et oui, donc les réservations fonctionnent bien, mais comme il reste des places, Patrick, peut-être d'abord dire, voilà, il faut venir. Qu'est-ce que tu vas répondre, qu'est-ce que tu vas dire aux gens?
Ah bah oui, bien sûr qu'il faut venir. Surtout, bon, il y a quand même un plateau extraordinaire, je veux dire, avec une première partie avec Margaïs, avec Fred Chapelier, Nina Attal.
Je pense que... Moi, je dirais que c'est ça aussi.
Il y a une belle alchimie musicale.
Le point le plus fort de la soirée, c'est que il y a trois artistes dans la soirée, donc forcément tout le monde peut y trouver son compte. Donc ça, c'est vraiment l'atout majeur de la soirée, j'ai envie de dire.
Voilà. Et Nina, est-ce que tu sais déjà qu'est-ce qui va composer ton set? Tu dis presque tout le show, c'est-à-dire que ça y est, les titres sont déjà dans l'ordre, la playlist
est faite. Ouais, c'est beaucoup de titres de Jump, évidemment, puisque c'est le dernier album en date. Oui, la majorité, c'est ça. J'ai envie de dire oui. Je sais pas encore exactement, donc on va dire que c'est plutôt du Jump.
Nina, juste pour te prouver qu'il y a au moins deux ou trois personnes qui écoutent l'émission, on est en direct live. On a un ami qui s'appelle Patrice Rayon et qui précise que tu as joué avec Fred Chapelier en 2010 au New Morning. Voilà.
Avec qui, pardon?
Avec Fred Chapelier.
Ah oui, exact. Mais bien sûr, un coplateau, exact. Mais c'est. Oh là, oui, c'est. Oui, mais parce qu'on s'est croisés avec Fred aussi sur d'autres dates en province. Mais effectivement, le New Morning à Paris, évidemment, ouais. Tu m'en rappelles très bien.
Super.
Très belle soirée.
Merci Nina.
Patrice, que je salue d'ailleurs, parce que je connais bien Patrice.
Patrice Rayon, voilà, qui intervenait. Merci à nouveau à Patrick Dubois pour être intervenu dans cette émission. Merci à toi, Nina Attal.
Merci beaucoup.
Qu'on verra le 8 février prochain. On va écouter un nouvel extrait de cet album Jump. À très bientôt, Nina, sur la route du blues.
Au revoir, merci.
Au revoir. On poursuit avec ce fameux extrait qui va arriver dans quelques secondes. Voilà, c'est parti. Ça s'appelle Rockerhead. avec Andrea Durand, featuring Andrea Durand, Nina Attal, extrait de son dernier album en date, Jump. Et puis, juste après le titre qui arrive, on aura l'interview de Fred Chapelier. Fred Chapelier avec It Never Comes Easy. Fred Chapelier sur Radio 666. Bonjour Fred, comment ça va ?
Bonjour Marco, ça va super.
Ça va super. Écoute, c'est vraiment la question, j'ai envie de dire presque la question la plus importante de cette interview. On s'est parlé plein de fois sur cette antenne. Mais là, j'ai envie de te redemander comment ça va bien, Fred ?
Eh ben, la réponse est dans la question. Ça va très bien. Ça va très bien.
Voilà, parce que
après quelques mois difficiles, tout est rentré dans l'ordre. Tout va très bien.
Eh bien écoute, c'est tout le mal qu'on pouvait te souhaiter, en tout cas pour cette nouvelle année. Je te renouvelle mes souhaits de bonne année 2020 et puis bien sûr de remonter sur scène le plus vite possible. C'est pas encore fait là, depuis quelques mois déjà, tu manques à beaucoup, hein, il faut le savoir.
Eh bien écoute, ça fait très plaisir, en tout cas je tiens à remercier tous les auditeurs qui ont suivi l'affaire et qui m'ont envoyé des mots d'encouragement. Merci à toi évidemment, qui a été présent. Évidemment, bonne année à tout le monde, à tous les auditeurs, à toi et à toute l'équipe. Et voilà, et j'ai rattaqué quand même, mais en studio. Voilà, donc je ne suis pas encore remonté sur scène,
oui.
Et ça ne saurait tarder. J'ai rattaqué par 5 jours de studio parce que je coproduis un album d'amis à moi. Voilà, j'en reparlerai un petit peu plus tard.
Voilà, des gens qui travaillent avec toi et qui reprennent pour certaines parties de leur répertoire des chansons que tu as créées d'ailleurs, je crois, Fred.
Oui, absolument. Depuis quelques mois, voire quelques années, ils reprennent certains de mes titres. Et pour moi, ça fait plaisir, c'est marrant d'entendre quelqu'un d'autre interpréter mes propres titres.
Voilà. Ça fait un bon moment qu'on te connaît, Fred. Pour ma part, je ne te connais pas depuis le tout début de ta carrière. C'est depuis les années 2002 environ, lorsque tu t'es proposé au Tremplin Blues sur scène de cette même année. Donc ça fait déjà 18 ans presque. Et en fait, le Fred Chapelier Blues Band à l'époque avait cédé la place à d'autres formations comme Cachemire, etc. Mais si on revient aux sources le temps de quelques minutes, Fred, on peut rappeler que tu es né en 1966 à Metz. Est-ce que tu te mets à la guitare très très vite vers l'âge de 14-15 ans, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Bon. Mais j'ai commencé par la batterie avant de faire de la guitare.
Alors ça, peu de gens le savent. Et ce que je sais aussi, et ce que tu nous avais révélé une fois, c'est que par rapport à ta découverte du blues, en l'occurrence, ça a été surtout ton frère qui a été un grand artisan de ça.
Ah mais sans mon frère, je ne sais pas si je ferais ce que je fais aujourd'hui. Parce que c'est lui qui m'a fait connaître et découvrir tous les gens que j'adore, à commencer par les Trois Kings. Voilà, il rentrait à la maison avec les 33 tours de Freddie King, B.B. King, Albert King. Et puis c'est lui qui a ramené les albums du Roy Buchanan, mais aussi de Led Zeppelin, Deep Purple, Dr. Feelgood. Voilà, et je pense que le tout premier bluesman que j'ai entendu, c'est Luther Allison.
Ah ouais.
Le fameux Live in Paris.
D'accord.
Et voilà. Alors. Et ouais, j'ai baigné dedans. Là, je te parle de ça. J'avais 7-8 ans et je baignais déjà dedans, quoi.
Voilà. Donc en plein dans les années 70-80. Et puis ensuite, bien sûr, naît cette passion pour la batterie, puis pour la guitare et quelques groupes comme ça sur lesquels tu te fais les dents. Est-ce qu'on peut donner une année à partir de laquelle tu as véritablement commencé ta carrière en tant que musicien?
Ah, j'ai commencé ma carrière en tant que musicien en 90, donc ça fait 30 ans.
Voilà, donc ça te fait un point commun avec Papa Choubi, par exemple. Parce que...
Exactement. Qui est mon pote, d'ailleurs, Papa Choubi, qui m'a invité il y a très peu de temps au Bataclan à jouer avec lui. Ouais, ouais.
Alors, 1990-2020, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer de spécial cette année pour Papa Choubi. Il y a un album qui fête ses 30 ans. On parlera projet tout à l'heure, bien sûr, mais ensuite, il y a des gens qui t'ont nécessairement influencé. Tu citais les Trois Kings, tu citais quelques groupes emblématiques du rock des années 70, mais il y a un garçon qui s'appelle Roy Buchanan qui a un peu façonné ton jeu, quand même.
Ah, mais énormément. Je connaissais donc déjà les Trois Kings à l'époque, et un jour, je me rappelle, en 75, donc j'avais 9 ans, mon frère est revenu avec le fameux Livestock de Roy, et là, ça a été une claque mémorable. Mais j'étais encore sur la batterie à ce moment-là, je commençais à avoir envie de jouer de la batterie. Mais ça a été une claque mémorable, et quelques années plus tard, quand j'ai pris la guitare, j'avais pas oublié Roy, et je l'ai tellement écouté, j'ai tellement usé les vinyles, que voilà, indirectement ou directement, on retrouve des traces de Roy Buchanan dans mon jeu, ça c'est indéniable.
Bien sûr, et tu as consacré un album à la mémoire de Roy Buchanan en 2007, ouais. On s'en souvient, Fred Chapelier and Friends. Il y a pas mal de collaborations qui ont émaillé la seconde partie, j'ai envie de dire, de ta carrière, qu'on pourrait situer à partir du moment où tu ne t'appelles plus Fred Chapelier Blues Band, mais tout simplement Fred Chapelier.
Ouais.
On peut citer des gens comme Nico Wayne Toussaint et Neil Black, on peut citer Tom Principato, on peut citer Billy Price. Comment est-ce que tu as rencontré tous ces gens-là les uns après les autres? Comment se sont fait les interconnexions, en fait?
Comme je venais de signer chez Dixie Frog en 2006,
oui.
C'est Philippe Langlois qui a toujours eu beaucoup d'idées. Il adore les mélanges, il adore que les artistes se mettent ensemble pour créer de nouveaux projets. C'est quand même un peu lui qui a fait en sorte que je rencontre Nico, Neil Black, Tom Principato, Alain Rivet, Alain Poutrivet, tous ces gens-là. Par contre, Billy Price, c'est, si tu veux, comme c'était le fameux chanteur du fameux Livestock de Roy Buchanan,
et oui.
Je me suis dit avec Internet, je veux voir s'il y a toujours des traces de lui, et je ne savais pas du tout s'il chantait encore. Et puis j'ai eu la bonne surprise de voir qu'il venait de sortir un album, et ça c'était en 2006. Donc ça fait déjà un moment, hein, de 14 ans.
Oui.
Et via son site, j'ai réussi à le contacter, lui envoyer un mail, lui dire que moi j'étais un grand fan, que si ça le bottait un jour de participer à un album hommage à Roy, je serais enchanté. Et il m'a tout de suite répondu oui, et tout est parti de là. Donc voilà, un simple email. Et après, tout est parti de là. Je l'ai fait venir plusieurs fois en France. Il m'a fait venir aux États-Unis plusieurs fois. On a enregistré l'album qui a suivi Nightwork aux États-Unis en 2009.
Mmh.
Et puis, on a enregistré la tournée suivante en France, tout est sorti, le live, CD, DVD, on stage. Voilà.
Alors, de très très belles rencontres. Et puis, ensuite, il y a une espèce de catalyseur qui fait que, j'ai envie de dire, Fred Chapelier passe de l'autre côté du miroir avec une rencontre fabuleuse en 2009 avec l'un des tenants du rock et de la chanson en France. Par la suite, tu as fait 89 dates avec lui sur l'année 2010. Je parlais de Jacques Dutronc. Comment ça s'est passé avec Jacques Dutronc au départ? Comment est-ce que tu en es arrivé dans cette aventure?
Ben, en fait, j'enregistre un ami à moi, ingénieur du son parisien, m'appelle en 2008 pour me demander de faire des guitares sur l'album d'un ami à lui, un artiste plutôt world music, mais il voulait un peu de guitare bluesy. Mmh. Donc j'accepte, il y avait très peu de budget, voire pas du tout de budget, mais j'accepte vu que c'était un ami, cet ingénieur du son. Je vais à Paris, je reste deux jours, j'enregistre l'album et je suis chez mon pote, donc ce fameux ingénieur du son, et je vois des photos, des posters, des dédicaces de Dutronc, des albums de Dutronc partout. Je lui dis, t'es fan de Dutronc? Il me dit, non, je suis un grand ami à Jacques depuis 40 ans. Ah, je lui dis, top, j'adore ce mec, voilà. Il me dit, bah écoute, on sait jamais, si un jour Dutronc décide de refaire une tournée, j'essaierai de te mettre sur le coup.
D'accord.
Et ouais, voilà, tout simplement. Et, et quelques mois après, alors que là, rien n'était décidé à ce moment-là, Jacques n'avait même pas pris la décision de faire une tournée, mais quelques mois après, la prod de Jacques et Jacques décident de faire cette tournée, mon pote m'appelle pour me dire, écoute, t'es libre pour aller deux semaines en Corse chez Dutronc pour le faire répéter avec un bassiste et un batteur. Je lui dis, évidemment, je suis libre.
Et là, on est à l'automne 2009, c'est ça, Fred?
C'est ça, exactement. On est à l'automne 2009. Donc je lui dis, évidemment, je suis libre, mais là, j'y allais uniquement 15 jours pour le faire répéter, puisque l'équipe était constituée, en fait.
Ouais, j'imagine, tu t'es dit, bon, j'aurais au moins profité de la piscine.
Non, mais c'est ça. Et puis, c'est toujours sympa de se retrouver deux semaines chez Dutronc, à rigoler, boire un coup et faire de la musique, quoi. Et jouer des énormes standards. Donc, en fait, au bout de 2-3 jours, ça s'est tellement bien passé que Dutronc m'a demandé de faire la tournée, quoi. Tout voilà. Simplement.
Ouais, une tournée
qui... Il m'a dit, tu es libre du 8 janvier au 24 novembre. J'ai dit, ouais. Ouais. Voilà.
Extraordinaire. Et donc, il y a eu, comme on le sait, plusieurs dizaines de dates de prévues. Et puis ensuite, la tournée a été rallongée. On arrive à 89 dates. Juste en quelques secondes, Fred, qu'est-ce que tu retires de cette première expérience de la très grande scène?
Qu'est-ce que je retiens de... En fait, bon, si tu veux, la différence, c'est que là, les moyens sont très conséquents. Mmh. C'est-à-dire que c'est un confort absolu pour nous. On arrive l'après-midi, tout est déjà installé, les cordes sont changées, les guitares sont accordées. Moi, on ne touche à rien, les musiciens.
Ouais.
On a juste à faire la balance, à redonner la guitare au technicien guitare, et puis on va boire un coup, quoi. Donc c'est le grand luxe à tous les niveaux. C'est quand même le grand luxe. Pour les déplacements, c'est pareil. Pour les hôtels, c'est pareil. Et puis, non, mais le fait d'être avec une légende vivante sur scène devant 5, 10, 20, 60 000 personnes, c'est juste un bonheur. Moi, il se trouve que le public soit 150 ou 60 000, je ressens la même chose.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est aussi important pour moi. Et voilà.
Tu avais déjà eu l'occasion de nous dire ça, effectivement, et on s'en souvient. Ensuite, en 2014, puis en 2017, tu as accompagné les Vieilles Canailles. J'ai envie de dire la même chose, mais modèle XXL avec Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. On peut retrouver ça en DVD, on peut retrouver ça sur tous les écrans. Ce sont des souvenirs absolument inoubliables, notamment le fait d'avoir pu faire le tout dernier concert du Taulier en juillet 2017 à Carcassonne. Un petit mot peut-être sur Johnny, Fred.
Ben oui, ben en fait, j'ai donc fait les 17 derniers concerts de Johnny.
Ouais.
Et effectivement, le fait de jouer le tout dernier avec lui, toute dernière chanson qu'il ait chantée, c'est toute la musique que j'aime, c'est du blues, tu vois. Et voilà, c'était juste, on avait tous les frissons, c'était le dernier concert. Il a fait monter ses filles sur scène. Enfin, il s'est passé quelque chose à Carcassonne. C'est dommage que ce concert n'ait pas été filmé, d'ailleurs. C'est ce qu'on a tous dit. voilà, mais Johnny, c'était un quoi qu'on en dise, parce qu'il est il a beaucoup été décrié, il l'est toujours, mais à côté de ça, il a un nombre incalculable de fans, et on fait pas l'unanimité, enfin, personne ne fait l'unanimité, mais on n'a pas autant de fans si on n'a pas autant de qualité et de talent.
C'est sûr, c'est jamais par hasard. Hein. On pourrait dire.
C'est jamais par hasard. Et puis Johnny, même mourant, parce que c'était le cas, il chantait, il envoyait, mais gravissime, quoi. Oui. Je veux dire, c'était juste hallucinant, quoi. Être sur scène avec lui et l'avoir dans les oreilles, parce qu'on avait les ears, et l'avoir dans les oreilles et être à un mètre de lui, c'était juste, quoi. Et ce garçon était absolument charmant et grand fan de rock, de blues et de guitare. Donc, voilà, tu t'imagines bien de quoi on parlait quand
on
était ensemble.
Bien sûr.
Voilà.
Je ne sais pas si les gens qui en disent du mal, je parle de Johnny Hallyday tout précisément, je ne sais pas si parmi ces gens-là, il y en a beaucoup qui l'ont véritablement connu. Je ne sais pas ce que tu pourrais, comment tu pourrais réagir à ça. Les gens qui ont connu Johnny l'ont tous apprécié finalement.
Alors, tous les gens qui le connaissent savent que c'était un mec adorable. Très très attentionné et d'une grande gentillesse et d'une grande humilité aussi. Alors que bon, c'est quand même le taulier, quoi, tu vois. En tout cas, voilà, moi, tous les gens que je connais qui le connaissaient disent la même chose que moi, que c'était vraiment un amour, quoi. Mmh.
Fred, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait de jouer devant 60 000 ou 150 personnes, tu continues à te produire et à travailler avec des gens à l'aura un petit peu moins grande comme Flo Bauer, les Chic Tip, Living Stone, qui est un groupe que tu aimes beaucoup, les musiciens dont tu parlais tout à l'heure en début d'interview. C'est important pour toi de continuer à collaborer avec soit des débutants, soit des gens qui ont leur public par chez eux uniquement. Est-ce que tu as quelque chose à transmettre, Fred ?
En fait, c'est un peu ça. J'aurais aimé qu'on fasse ça pour moi, donc je le fais. C'est-à-dire que quand on me demande gentiment de participer à un album, je sais qu'il y a pas de sous, mais je m'en fous complètement. Si ça peut donner un coup de main, je le fais volontiers. Mmh. Donc à chaque fois qu'on m'a demandé, j'ai dit oui. Voilà, il faut tendre la main, il faut ouvrir la route pour les plus jeunes, et puis ça fait partie de ma personnalité de partager, et j'aime ça, et ça fait toujours voir tenter de nouvelles expériences, rencontrer de nouvelles personnes,
et se remettre en question aussi quelque part.
Et c'est se remettre en question. C'est pas parce que j'ai fait Bercy 10 fois que je peux pas enregistrer un titre avec Livingstone, tu vois, un titre de Black Sabbath avec Livingstone.
Alors tu disais, j'aurais aimé qu'on fasse ça pour moi, tu n'as donc pas eu de mentor, tu disais adorer les Trois Kings, avoir admiré Roy Buchanan, et en fait, est-ce que quelqu'un s'est occupé de toi, t'as dit, tiens, tu devrais faire ci, tu devrais faire comme ça, à tes débuts?
Pas vraiment, à part, non, pas vraiment. J'ai tenté quelques petites approches pour qu'on me donne un coup de main, des approches dans des sphères un peu plus en avance que moi à l'époque, mais ça n'a jamais rien donné, donc bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça j'ai pas oublié, et du coup, si mon nom peut servir à des jeunes, tant mieux, quoi.
Ouais. On pense par exemple à Charlie Faber, avec qui tu as longtemps travaillé, qui est en train d'exploser avec son groupe Rosedale. Il y a d'autres musiciens comme ça avec qui tu as collaboré, qui ont continué, qui ont fait leur carrière parallèlement.
Ben, en fait, il y en a un qui est Abder Benachour, qui est le bassiste qui a joué avec moi pendant plus de 20 ans, qui est maintenant chez Neil Black.
Chez Neil,
voilà,
Black,
il joue
effectivement,
avec. Ouais. Voilà, il joue avec Neil Black. Et puis tu sais, c'est un peu comme dans le foot, en fait. Ouais. Il y a les transferts. Donc de temps en temps, le batteur de mon groupe, Guillaume Destarac, joue avec Neil Black aussi.
Mike Toussaint, j'allais dire aussi, effectivement.
Aussi, il a joué longtemps avec Nico.
C'est ça.
Tout ça, c'est la famille, en fait. Ouais. Mike Latrell, le clavier de Neil, joue de temps en temps avec moi. Enfin, ça arrive assez souvent qu'on se mélange. Voilà. D'ailleurs, on a une date à côté de Paris avec Neil. Mais c'est un mix des deux groupes.
D'accord.
Voilà. C'est le 28 février à Crosne.
Très bien. Au chapitre des guitaristes qui t'ont le plus influencé et à qui tu as rendu hommage, Roy Buchanan bien sûr, mais également Peter Green, ça reste un peu plus récent. Il y a pas si longtemps encore des concerts autour de ce répertoire-là. C'est un plateau que tu vas continuer à faire vivre sur scène, ou alors c'est fini, la page est tournée, on passe à autre chose?
Ah non, c'est fini, la page est tournée, je passe à autre chose. En fait, c'était prévu. Et d'ailleurs, cette série de concerts, Hommage à Peter Green, a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Ouais. Ça marchait tellement bien que finalement, on a tourné plus de 2 ans avec ce projet-là. Quoi.
Une des dernières dates, ça devait être au Sous-Bock d'ailleurs, peut-être.
C'était une des dernières, mais je me demande si la dernière, c'était pas à Jazz sous les Pommiers.
D'accord.
Voilà.
Bah, j'y étais aussi, c'était à Coutances. Del Blade également, là c'est une collaboration qui aura duré peu de temps. Je crois que Del Blade est reparti sur d'autres projets, non?
Bah, Del Blade est reparti sur d'autres projets et moi j'avais envie de repartir sur. Recentrer sur Fred Chapelier, ouais. Sachant que c'était mes 25 ans de carrière, revenir à mon répertoire parce que finalement. J'ai pris un regret, évidemment, je suis très fier de l'album qu'on a fait avec les Gems, mais finalement, beaucoup, beaucoup de gens me demandaient « Mais pourquoi tu chantes plus et pourquoi on n'entend plus Gary Gunn? Et pourquoi on n'entend plus tel ou tel morceau et voilà. Donc, j'ai bien réfléchi et je me suis dit « Ok, donnons-leur ce qu'ils souhaitent et profitons des 25 ans de carrière pour en faire une tournée et voilà, et jouer tous ces titres. »
Et voilà, et cette année, ça sera les 30 ans de carrière. Fred, je voulais savoir également, par rapport à ton parcours, par rapport à ce que tu fais depuis ces 30 années maintenant de carrière, quel est, et pour rebondir également sur deux de tes titres d'album, Night Work et It Never Comes Easy, quelle est pour toi la part de talent et la part de travail dans ce que tu fais en tant que guitariste et en tant que chanteur également?
Bah, écoute, je pense que si tu as la chance d'avoir du talent au départ, et qu'en plus tu travailles, là t'as une chance vraiment de faire quelque chose et d'aller loin. Le talent c'est bien, mais ça suffit pas. Il y a des gens, malheureusement, il y a des gens qui vont travailler, mais qui n'ont pas forcément le don au départ. Donc, je pense que j'avais un don au départ pour la musique, et puis j'ai travaillé quoi, travaillé pendant. La guitare, je l'ai travaillée 10 ans non-stop avant de vraiment jouer de façon professionnelle. Parce que j'ai commencé en 81, la guitare, et en 90, je suis devenu professionnel. Donc ça fait quasiment 10 ans, voilà.
Et donc, on peut dire, est-ce que c'est une légende, Fred Chapelier dort avec sa guitare? Ou presque?
Non, je sais vraiment la coupure et il m'arrive même souvent quand je suis à la maison de si je suis 8 jours à la maison de pas toucher la guitare pendant 8 jours.
Ah oui.
Ça m'arrive très souvent. D'accord. Oui.
Quels sont on a parlé beaucoup d'influence, on a presque évoqué Gary Moore, mais c'était dans un des titres que tu lui consacres. On a parlé de Peter Green, on a parlé de Roy Buchanan. Mais les guitaristes d'aujourd'hui, ceux qui sont là, ceux qui émergent, ou les légendes qui sont encore présentes, quels sont ceux qui te font vibrer, que ce soit ici en France, en Europe ou aux États-Unis par exemple?
En fait, je me tiens pas trop au courant de ce qui se fait actuellement.
Ouais.
Je suis quand même resté un peu scotché sur tout ce qui s'est fait à l'époque. Les guitaristes actuels, en fait, il y a un guitariste qui à chaque fois qu'il joue 2 notes me renverse, et en plus il se trouve que c'est un ami à moi, c'est Buddy Whittington.
Ah oui.
Voilà, qui est un peu plus vieux que moi, donc c'est pas jeune, on va dire. Mais un guitariste un peu plus récent que Peter Green et compagnie. Voilà, Buddy Whittington, pour ceux qui connaissent pas, a accompagné John Mayall pendant 15 ans. Et il faut absolument découvrir ce guitariste qui est incroyable. Le toucher, le son. Je trouve que Joe Bonamassa est un guitariste incroyable. Sa musique ne touche pas plus que ça, mais c'est quand même un guitariste incroyable. Je j'avoue que je ne sais pas trop quoi répondre parce que je ne connais pas très bien ce qui se fait depuis une quinzaine d'années.
Fred, on va parler de 2020 un petit peu par rapport à tous ces projets. Les prochaines dates, tu disais que très très bientôt tu remontais sur scène. C'est pour fin janvier, là, on y est quasiment quoi.
On y est quasiment, ouais. On y est.
Alors, la prochaine fois qu'on va te voir dans la région, ce sera le 8 février lors de la nuit du blues de Saint-Lô, pour laquelle tu es invité et tu en es la tête d'affiche. Également Nina Attal et les Barn Guys, ce sont des gens que tu connais aussi.
Je connais très bien Nina. Les Barn Guys, je les ai entendus via Internet, mais je ne les ai encore pas rencontrés. Mmh. Ça sera un plaisir d'ailleurs.
Voilà, et donc on t'a vu la dernière fois, c'était, il y avait une date au Souboc, et puis il y avait une date également, tu l'as rappelé, à Coutances, Jazz sous les pommiers. Je pense qu'en Normandie, il y a plein de gens qui t'attendent avec grande impatience. Également au regard de ces derniers mois où il y a eu une méforme, on va dire, et puis un abandon forcé de la scène. Fred, tu sais que tu es très attendu ici, tu es très entendu partout où tu peux te produire. Comment est-ce que tu prends cette popularité qui n'est pas soudaine, qui a été grandissante, montante, et pas forcément, j'allais dire, grâce à ces collaborations qu'on citait tout à l'heure. Comment est-ce que tu prends la popularité, le fait d'être aimé, d'être connu, d'être reconnu dans la rue ?
Bah écoute, tout ce que je peux dire, c'est que ça fait extrêmement plaisir. Et j'étais même surpris. J'ai toujours eu un bon feeling avec les gens, et les gens sont très gentils avec moi, mais je pense que c'est réciproque. J'ai toujours un grand respect pour le public, donc je pense que le public s'en rend compte. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un respect mutuel. Bon, il se trouve que si on m'attend, c'est qu'on apprécie mon travail et ma musique. Ouais. Ça fait vraiment plaisir, tout ça. Et c'est pas ces cinq derniers mois qui me font dire le contraire. J'ai eu beaucoup d'encouragement. Et en 30 ans, c'est la première fois que je suis arrêté, d'ailleurs. Mmh. Mais bon, ça, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai largement autant hâte que le public d'être sur scène.
Très voilà. Bien. Le 8 février, le concert, ce sera le soir, bien sûr, mais le matin, il y aura une masterclass avec quelques guitaristes de la région. Est-ce que tu as déjà prévu un travail spécifique avec eux ? Est-ce que ça va dépendre de leurs questions ? Comment ça se passe, un masterclass avec Fred ?
Masterclass avec moi, c'est je leur expose et je leur montre ma vision du blues et surtout mes techniques, mes petites astuces et tous les détails qui font la différence. Voilà, parce qu'il y a c'est un tas de détails qui font la différence d'après moi, et on va prendre le temps de leur montrer ça, de les faire jouer aussi, de les corriger, de parler de tout un tas de choses aussi de manière plus vaste.
Voilà, quelque chose de tout à fait enrichissant, en tout cas quand on est dans le monde de la guitare, bien sûr. Quels sont les projets de Fred Chapelier pour 2020 ? Une tournée, un album ? Comment ça va se passer cette année ?
Alors, 2020, c'est vraiment l'année concert pour cette tournée des 25 ans. Donc, je vais reprendre des titres de tous mes albums. Et il y a un best-of qui va sortir chez Dixie Frog.
D'accord.
Best-of Fred Chapelier, avec 20 titres voilà, qui seront remasterisés. Ça, c'est une excellente chose. Et je prépare déjà un nouvel album Fred Chapelier pour 2021.
Très bien. Et ben donc, un best-of plus un nouvel album en studio, je l'imagine,
oui.
pour l'année prochaine. Fred, voilà. on te dit merci pour tout ça. Bon courage pour cette suite de concerts, de dates, bien sûr. Mais j'imagine que c'est toujours un plaisir de collectionner les kilomètres et les différentes scènes. En tout cas, merci pour ta générosité, qu'elle soit ici au micro, qu'elle soit sur la scène ou dans la vie de tous les jours. Merci, Fred.
Ben, c'est moi qui te remercie, Marc. C'est toujours un plaisir de bosser avec toi et de te parler. Et puis, merci aux auditeurs qui continuent à soutenir le blues, à soutenir Radio 666. Et il faut que ça dure encore. Bon, j'ai 54 ans. Je vais avoir 54 ans pour que ça dure encore au moins autant.
Très bien. Merci, Fred.
Voilà.
À très bientôt.
À très bientôt.
Au revoir.
Ciao.
Voilà. Voilà, c'était Sweet Home Chicago numéro 1075 avec les Barn Guys, avec Nina Attal, avec Fred Chapelier. C'est tout simple, si vous voulez gagner votre place pour la prochaine nuit du blues le 8 février 2020 à partir de 20h à Saint-Lô, vous répondez à la question suivante au 02 31 94 66 66. Donnez-moi le nom d'un des artistes qui se produira à la nuit du blues de Saint-Lô. Je vous attends au téléphone 02 31 94 66 66. Il y a deux places à gagner. À tout de suite. Et pour les autres, on se retrouve samedi prochain, samedi 1er février, avec de nouveaux invités. Salut, bye bye.